ça plus tard.
Tu veux mettre aussi ? Peut-être, oui. Merci.
Nous commençons notre lecture au premier verset, acte chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, l'empereur, avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla, il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. C'est un texte historique, c'est un récit détaillé, pratiquement dépouillé d'émotions. C'est le récit de son séjour. Mais maintenant, regardons en Corinthiens. En Corinthiens, chapitre 2. Et heureusement qu'on a toute la Bible. Car si ce passage, c'est côté extérieur, ce que n'importe qui aurait pu voir de Paul à Corinthe, nous ne savons pas comment ça se passait dans son cœur. On ne sait pas ce qui vivait à l'intérieur jusqu'à ce qu'on arrive en Corinthiens, chapitre 2. Verset 1er. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, » donc quand il est arrivé, « ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et au cas où vous seriez tenté de penser que cette démonstration d'esprit et de puissance était des signes, des prodiges, des miracles, il n'en est rien. Et aucun miracle n'a eu lieu à Corinthe, contrairement à d'autres villes. Donc la démonstration d'esprit et de puissance était simplement le témoignage fidèle de l'Évangile par cet homme qui est traumatisé, qui est fatigué, usé, il est fragilisé, et pourtant le Saint-Esprit le remplit puissamment. Alors Dieu nous appelle à témoigner. Il y a des moments quand on se sent en forme pour témoigner. Tout va bien, le compte en banque ça va, on a beaucoup d'amis, l'église est dynamique, on est entouré de gens sympathiques. Même les interlocuteurs ne sont pas trop sauvages. On dit que c'est agréable de témoigner. Il y a d'autres moments quand on est accablé de soucis, de problèmes, et Satan vient nous dire, dans l'état où tu es, je ne pense pas que ça vaut la peine de témoigner, parce que si les gens voient ta tête, ils vont dire, être comme lui, non merci. Et pourtant, le commandement est le même et le secours est le même. Le commandement est le même, ça nous fait peur. Et le secours est le même, ça nous soutient. Regardons un peu dans quelles circonstances Paul est arrivé à Corinthe. Premièrement, vous connaissez que le chapitre 17 d'Actes, c'est son temps passé à Athènes. Et quand on lit tous les récits de l'apôtre Paul, il va dans une église, enfin dans une ville, au bout de quelques semaines, naît une église. Et on dit, ah, ça c'est bien l'apôtre Paul, hein? Personne ne fait comme ça aujourd'hui. Mais lui, avec la puissance de Dieu, il y arrivait. À Thessalonique, c'était trois sabbats, et après la persécution, mais il y avait déjà une petite église qui s'était fondée si vite. Et partout en Macédoine, malgré les difficultés, il laisse derrière lui des églises, à Philippe, à Bérée, à Thessalonique, puis descend à Athènes. Et là, il témoigne, on a le texte de son message. Les Athéniens, c'était des gens tout à fait particuliers. Et quelques personnes se convertissent, mais c'est vraiment maigre. En tout cas, il n'est pas dit qu'une église ait été fondée à Athènes. On dit, mais pour le triomphant apôtre Paul, qui chaque fois qu'il place son pied dans une ville, il plante une église, et à Athènes, ça ne marche pas. Enfin, c'est mitigé, c'est pas franc, comme d'habitude. Et je pense que Paul était conscient de cela. Il avait été là-bas, il avait été irrité par les idoles. La Bible dit, son esprit était irrité, il y avait des idoles partout. On disait à Athènes, il y avait dans le centre-ville autant d'idoles que de piétons. On confondait presque, ça avait l'air nombreux, mais la moitié des gens qui étaient là, c'était des idoles. Et l'autre moitié, c'était des pitons. Alors, il y avait tellement, et ça devait lui faire plein d'irritation. On ne voit pas qu'il soit irrité comme ça dans d'autres villes, mais là, ça lui a fait cet effet. Il prêche à un groupe d'intellectuels, il prêche un excellent message d'évangélisation, mais dès qu'il arrive au corps, il a pu dire l'évangélisation, il est ressuscité des morts, ce Jésus, et c'est lui qui va juger le monde. Il a dit l'essentiel, mais on met fin à la réunion, les uns se moquent, les autres disent, on t'entendra une autre fois, quelques-uns croient. Bon. La plupart des gens qui servent Dieu, ils disent, je préfère une opposition franche, au moins ça touche les gens. Plutôt que cette molle indifférence, cette moquerie, cette, ouais, d'accord, c'est ta vérité, moi j'ai la mienne, on est courtois, on est gentil avec tout le monde, on vous demande de faire pareil, ne dites pas que vous avez la vérité, ça fait mauvais genre, dites vous avez votre vérité, ça passe mieux. Ça c'est pire que l'opposition franche. En Macédoine, c'était l'opposition franche. À Philippe, à Thessalonique, à Bérée, c'était la persécution. Sa vie était en danger. Et pourtant, des églises solides ont pu être implantées. Alors, devant cette indifférence des Athéniens, il aurait pu dire, moi j'arrête l'apostolat. C'est pas la peine. Les gens ne se convertissent pas aussi peu. Est-ce que ça vaut la peine? Quand les gens sont indifférents, est-ce qu'il faut continuer? Écoutez, ça leur est égal. Ils me montrent que ça leur est égal. Vous êtes là parce que vous êtes là. Vous avez le droit d'être là, mais ne me demandez pas de croire ce que vous dites. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? L'indifférence, on appelle la France, dans d'autres pays qui envoient les missionnaires en France, on appelle la France le cimetière des missionnaires. Honnêtement, le cimetière des missionnaires. Parce qu'il y a tellement de mortalité, pas de gens qui meurent physiquement. Des gens qui disent, c'est pas la peine, j'ai donné 15 ans, j'ai donné 20 ans, qu'est-ce que j'ai à montrer? Rien, je m'en vais. Un de nos collègues, il a compté, en 25 ans, j'ai compté en moyenne un départ missionnaire américain. Hein, c'est pas toujours très solide, mais un départ par an, un couple par an, pour toutes sortes de raisons. Et pas beaucoup de gens qui sont remplacés. La France, c'est comme Athènes à l'époque. C'est exactement le même genre. Est-ce qu'il faut continuer en face de l'indifférence? Non seulement ça, mais quand il arrive à Corinthe, il est dans une situation financière précaire. Souvent, on entend des jeunes missionnaires qui disent je vais faire faiseur de tente. Ça, c'est le langage aujourd'hui de la mission moderne, faiseur de tente. Je vais avoir un boulot, je vais gagner ma vie et je vais servir le Seigneur à côté. Et on dit je vais faire comme Saint Paul, enfin l'apôtre Paul, faiseur de tente. Et il n'y a rien de mauvais avec ça. Il y a des tas de pays dans lesquels on ne peut pas entrer à moins d'avoir un métier qu'on peut exercer. On a au moins une nièce, peut-être deux, qui sont dans ce contexte-là. Elles ont un travail dans une ONG et elles peuvent témoigner, mais elles ne peuvent pas entrer comme missionnaires. Mais l'apôtre Paul, on imagine, oui, il faisait des tentes toute la nuit, il prêchait toute la journée, fondait des églises à la voie. Non, il n'a pas fait des tentes toute sa vie. Il est très clair, en Corinthe, il dit... Il avait besoin de faire des tentes, il avait besoin d'argent, il a trouvé un couple qui faisait la même chose que lui, des chrétiens en plus, et il fait des tentes. Mais dès que ses amis viennent de la Macédoine, avec un peu d'argent, il se donne tout entier à la parole. Il a travaillé quand il le fallait, mais dès qu'il pouvait s'en passer, il s'en passait parce qu'il estimait que son temps était plus important qu'un salaire. Et sans doute, il avait un train de vie où il pouvait vivre du minimum. Et quand, d'ailleurs, on sait que chez les Corinthiens, il n'a jamais voulu recevoir le moindre argent de cette église, parce qu'il savait que ça lui serait reproché. Il avait mesuré la superficialité du caractère des Corinthiens. Et il avait compris que s'il recevait un soutien de ces gens-là, un jour, ça lui retomberait dessus, on le lui reprocherait. Et dans 2 Corinthiens, il dit, oui, mais pour vous servir, sans accepter votre argent, j'ai dépouillé d'autres églises. Parce que c'est ce qu'eux disaient à son sujet. Oui, dépouille les églises pour recevoir un salaire. C'est un profiteur. Quelle belle mentalité dans cette église de Corinthe. Hein? Mais ce qu'il voulait dire, c'est que d'autres églises m'ont soutenu financièrement quand j'étais chez vous. Et je vous ai offert gratuitement l'évangile, sans rien accepter de votre part. Mais c'est la seule église à laquelle il a parlé ainsi. Il semblerait qu'il n'avait rien contre de recevoir le soutien d'autres églises, notamment les Philippiens qui l'ont beaucoup soutenu à plusieurs reprises. Donc, situation financière précaire. Il n'a pas d'argent, il est obligé de travailler. On sait qu'il avait une maladie des yeux. Coudre des tentes pour y voir, ça devait être encore plus difficile que pour quelqu'un en bonne santé. Ses associés, on peut imaginer le traumatisme qu'ils ont eu, qu'est-ce qui est arrivé, où est-ce que vous viviez avant? Ben, on vient d'attirer à Corinthe, qu'est-ce qui est arrivé? L'empereur qui voulait blâmer un peuple pour toutes ces frasques et tous les malheurs qui tombaient sur la ville de Rome, et ayant été mal renseigné sur les juifs, il a dit les juifs, il faut que vous quittiez la capitale. Et il les a dispersés. Vous imaginez ce couple obligé de prendre leurs affaires et de partir vite, vite, trouver une autre ville dans laquelle vivre. Alors vous avez ces gens qui viennent d'arriver, un peu des réfugiés, un peu des exilés. Et puis Paul qui arrive, qui a besoin d'argent, il se retrouve, il se console, il travaille ensemble. Ce n'est pas la condition idéale pour commencer une église. Et la Bible dit, on a vu en Corinthiens 2, il est dans un état de faiblesse morale et psychique. Il y a des raisons à ça. Il avait été battu à Philippe, de verge, jeté en prison, libéré avec le tremblement de terre. Bon, le geôlier s'est converti, mais ça laisse des traces, au sens propre et au sens figuré. À Thessalonique, on a fait le complot de lui ôter la vie. Les frères l'ont fait sortir vite, vite de Thessalonique avant qu'il ne soit assassiné. Ça laisse des traces. C'est un être humain. C'est pas un homme en inox, cet apôtre Paul. On a tendance à le mettre sur un piédestal, mais il était un homme, on ne peut plus, normal, humain et fragile comme vous et moi. Et donc, on voit qu'il était affaibli. Mais, verset Actes 18, versets 4 et 5, on voit ce qu'il a fait. Il n'avait pas, peut-être, la disponibilité pour faire tout le service qu'il faisait habituellement. Donc, en tout cas, la synagogue, il allait le samedi. Et ce qui était bien dans les synagogues de l'époque, c'est quand on avait un nouvel arrivant, un visiteur, on disait, est-ce que vous avez des nouvelles à partager, quelque chose à dire. C'était la politesse, c'était la coutume. Alors là, il s'est encouvré dans cette possibilité chaque fois pour annoncer l'évangile. Et là, donc, pendant plusieurs sabbats, il arrête son travail, comme tout bon juif, et il va à la synagogue et il annonce, et il a sans doute, il annonce, il prépare le chemin, peut-être en parlant du Messie et de toutes les prédictions faites au sujet du Messie, un peu histoire de donner appétit aux gens d'entendre la suite. Et je peux l'imaginer, et la suite, je vous dirai samedi prochain. Plusieurs samedis, il a fait ça. Est-ce que, comme on dit aujourd'hui, il y a un coup de mou ici chez Paul, est-ce qu'il est un peu fatigué? Il est fatigué. Il est à bout, il est fragilisé, il est marqué, il est peut-être même découragé. Mais Dieu est là. Et Dieu est toujours là. Vous connaissez tous ce petit écriteau que l'on met parfois sur les frigos et qu'on trouve sur les cartes chrétiennes, l'histoire des pas dans le sable, vous connaissez? Hein? Et les pas, on voit deux personnes qui marchent côte à côte, et dans son rêve, le chrétien dit « Seigneur, tu marches avec moi », et on a marché ensemble, côte à côte, c'était merveilleux, et puis là, je ne vois qu'une seule trace de pas, alors « Seigneur, tu m'as abandonné, et j'ai dû faire mon pèlerinage tout seul », et puis le Seigneur lui dit « Non, c'est là que je te portais ». Le Seigneur a porté l'apôtre aussi. La première chose que le Seigneur a fait pour lui, verset 5, et on peut imaginer le soulagement dans le cœur de cet homme quand Silas et Timothée furent arrivés. Quand il était à Athènes, il dit un peu plus tard, j'étais à Athènes, j'aurais pu rester, j'aurais pu faire des choses, mais mon âme ne trouva pas de repos parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Nous dit le grand apôtre Paul, à lui seul, il bouleverse l'Empire romain, il bouleverse le monde religieux, il fonde des églises à tour de bras, mais un homme, mais rien ne peut l'arrêter. Et si tout le monde l'abandonne, il est droit dans ses bottes, voilà. Il y a eu des moments où tous ses collaborateurs l'ont abandonné, et le Seigneur l'a soutenu. Mais combien c'était bon d'avoir des collaborateurs qui arrivent, des co-ouvriers qui viennent le fortifier. L'encouragement de ne pas être seul. Et la fidélité des collaborateurs dans l'œuvre de Dieu peut être décisive. Il a reçu Silas et Timothée. Et là, étant soutenu par le don que ces hommes lui ont apporté, et ayant maintenant le temps de le faire, étant encouragé par les prières de ses deux collègues les plus chers, verset suivant, il se donna tout entier à la parole. Il reprend son ministère missionnaire à plein temps, parce qu'il peut le faire et qu'il veut le faire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. On voit dans le verset 5, on ne voit pas le mot Saint-Esprit. Mais on voit ce qui se passe dans le cœur de l'apôtre Paul. Il travaille du dimanche, sans doute, au vendredi, à faire des tentes avec ses amis. Le samedi, il va à la synagogue, les frères viennent, et quelque part dans son cœur, le Saint-Esprit lui dit, maintenant il faut y aller. Les dons sont arrivés, tes frères sont arrivés, on arrête la couture, on arrête les tentes, et on revient au métier d'origine, c'est-à-dire être apôtre. Témoin de la résurrection et évangéliste. Il se donna tout entier à la parole. C'est une décision, c'est pas juste une... Bon, tiens, maintenant j'ai de l'argent, je vais tiens, et je faisais un peu plus. Non, le Saint-Esprit lui a montré. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il puisse reprendre ce travail-là. Et on voit aussi que quand il était tellement fragile, en Corinthiens chapitre 2, dans son âme et conscience, il dit, quand je prêchais, c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est pas qu'il a parlé dans 15 ou 16 langues différentes pour impressionner ses auditeurs. C'est que je pense, quand les gens ont dû voir l'état dans lequel était cet homme, et lui était conscient de sa fragilité et de sa faiblesse, quand il apportait la parole, où qu'il allait, les gens ont vu le signe que Dieu était avec lui. Une des plus belles choses qu'on puisse nous dire. Toi, tu as fait ça? Oui. Ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu as fait ça. Ce n'est pas possible que toi, tu ne peux pas faire ça. Et pourtant, si. Ah non, alors. Je ne sais pas ce que tu as, mais ce n'est pas toi. Ça, ce n'est pas en toi. Tu n'as pas la capacité de le faire. Et vous, vous connaissez la réponse. C'est Dieu qui l'a fait à travers moi. Et alors, si vous dites, c'est le Seigneur qui l'a fait. Ah oui, ça doit être ça. Parce que ce n'est pas toi. Dieu aime énormément prendre les gens comme nous, ordinaires, et faire des choses extraordinaires pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas nous, que c'est lui qui l'a fait. Il est invisible. Comment veut-il se montrer aux gens, sinon en prenant des gens et faisant des choses extraordinaires par eux? Et c'était le cas de Paul. Il le dit lui-même, et les gens ont dû se rendre compte, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Un homme qui aurait dû être à la maison de repos, ou en sanatorium, ou bien un centre de soins, ou je ne sais, au repos complet, au lit pendant 6 mois, il est là à évangéliser, et le Seigneur travaille à travers lui. Le ministère du Saint-Esprit. Et une troisième chose qui l'encourage, il y a l'arrivée des collaborateurs, il y a le ministère du Saint-Esprit, mais une troisième chose qui est essentielle, verset 6, le rejet de la culpabilité sur les coupables. Je le répète, le rejet de la culpabilité sur les coupables. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul avait annoncé plusieurs samedis les prédictions du Messie. Finalement, il explique, le Messie est venu, il a accompli toutes ses prédictions et il a dû donner le A plus B pour montrer que Jésus est vraiment le Messie. Ils attendaient le Messie. Il leur montre que Jésus est le Messie d'une manière que personne ne pouvait contester. Quand les gens ne peuvent plus argumenter, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous injurient, ils vous insultent, parce qu'ils sont à court d'arguments, ils savent que vous avez raison. Tout ce qui leur reste, c'est des insultes et de la calomnie. Paul, il comprend, le Seigneur lui montre, ces gens-là ne veulent pas de moi, n'ont pas l'intention de me recevoir, et se braquent contre moi. C'est là où le diable vient nous susurrer à l'oreille. Ben, tu ne sais pas faire. Tu n'as pas su trouver les mots. Tu étais un peu trop agressif quand tu as parlé. Tu n'as pas trouvé le ton de voix qui aurait convenu. Tu n'as pas assez enveloppé ton témoignage pour qu'il passe. Combien de fois j'ai entendu au milieu évangélique, « Ah, vous savez, ça c'est un message qui ne passe plus. » Ah bon, alors s'il ne passe plus, il ne faut pas le dire. Il faut dire uniquement les choses qui passent. Passer par rapport à qui? Que les gens n'ont pas envie de l'entendre, la Bible nous avertit. Ils n'ont pas envie de l'entendre. Les gens, en général, n'ont jamais eu envie d'entendre la vérité. Vous ne trouvez pas des gens à tous les coins de rue qui disent « Monsieur, madame, le chrétien, dites-moi tout, j'ai soif de vérité. » Dieu met cette soif. Dieu touche les cœurs, mais l'homme, naturellement, n'a pas soif de la vérité. Il s'oppose à la vérité. Et donc, il dit « Je refuse de me culpabiliser là où je ne suis pas coupable. » Ça, je vous laisse. J'ai entendu un récit il y a quelques années qui m'a profondément marqué, que je partage avec vous. C'était un pasteur qui était dans une église. Cette église avait toute une histoire de difficultés avec les pasteurs. Et cet homme a voulu rester. Il a enseigné la parole, il a fait des visites, il a prié avec des gens, il les a aimés, il a essayé de les aider. Et c'était que des problèmes, que des critiques. On attaquait lui, on attaquait sa femme, on attaquait ses enfants, on attaquait de toutes parts. Pas de reconnaissance, pas de croissance, un esprit de rivalité, d'animosité dans cette église depuis fort longtemps. et il avait travaillé. Alors il était passé pratiquement par une dépression parce que les gens disaient, tu n'es pas un bon pasteur, tu ne sais pas faire, tu ne m'as pas rendu visite tel jour quand j'aurais besoin, tu aurais dû le savoir et venir à mon secours sans que je ne te le dise, etc. etc. Vous savez, parfois on pense que les pasteurs c'est Dieu leur parle continuellement, ils sont d'abord à genoux 15 heures par jour de toute façon, et puis ils étudient la Bible 18 heures par jour, et puis ils doivent faire 14 heures par jour de visite. Et bien sûr, ils passent beaucoup de temps avec leur famille parce qu'il faut qu'elle soit exemplaire. Et quand vous comptez ce que les chrétiens pensent qu'un pasteur doit faire, il y en a pour 350 heures par semaine, sans compter le sommeil. Et il y en a qui pensent que le pasteur, à genoux en prière, les mains tendues comme ça, du matin au soir, du midi, va visiter un tel, va visiter tel autre, et il doit se présenter à la porte, Dieu vient de me dire que tu as un problème, je viens te rendre visite. Pasteur, c'est providentiel. Ça, c'est dans les romans, mais ça n'existe pas dans la réalité. Ce pasteur ne pouvait pas satisfaire. Il est parti de cette église brisé, culpabilisé, troublé. Chaque fois qu'il pensait à cette église, c'était des larmes et c'était « j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué ». Il a lu ce passage et le Saint-Esprit le lui a enseigné. Et un jour, qu'il était invité à aller dans une autre église pour donner des messages, il savait qu'il passait de côté de cette ville et à côté de cette église. C'était tard le soir. Et il y a eu cette idée. Il est venu sur le parking de l'église le soir. Il est sorti de la voiture. Puis il est marché tout autour de l'église. Tout autour de l'église. Sur la pelouse, tout autour. Regardez cette église. Et puis, il s'est assis sur son siège. Puis il a pris ses chaussures. Il les a tapées comme ça pour enlever la poussière de cette église, de ses pieds. Et puis il est parti dans sa voiture. Et puis il n'a plus jamais été culpabilisé. Il a été guéri. Il a rejeté la culpabilité sur les coupables. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne veulent pas recevoir Christ ne le recevront jamais. Mais quand nous savons que nous avons fait tout ce qu'on a pu faire, on a annoncé l'évangile. Bien sûr, on fait toujours imparfaitement, mais on a annoncé l'évangile. Et les gens restent. Ne nous blâmons pas, ne nous culpabilisons pas, on n'a pas su trouver. Aujourd'hui, il y a une forme d'évangélisation qui est une réponse à ce genre de culpabilité. Aujourd'hui, il y a une espèce de jeunisme qui attaque l'Église. Le jeunisme, c'est il faut être jeune pour pouvoir atteindre les gens. Parce que les vieux, c'est dépassé. Donc le jeune, il s'habille comme un jeune, il marche comme un jeune, il parle comme un jeune, il joue la musique comme un jeune, il prêche l'évangile jeune, et les jeunes, c'est cool et tout ça, ils se convertissent. Oui, ça peut être n'importe quelle chose. Alors il y a beaucoup de sincérité, attention. Les gens le croient vraiment. Ils croient vraiment que c'est la solution. Mais ça ne l'est pas. Ça ne peut pas l'être. Par contre, Dieu a besoin de jeunes. Il a besoin de jeunes serviteurs. Il a besoin de vieux serviteurs. Il a besoin d'entre les deux. Il a besoin de tous âges. Parce que l'évangile reste le même. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et quand on dit, voyez, on a tout essayé, ça n'a pas marché, essayons quelque chose de nouveau. Demandons au public ce qu'ils aimeraient qu'on leur dise. Il y a un petit livre qui est sorti en anglais. Cette petite église est allée au marché. On fait du marketing maintenant. Qu'est-ce que vous recherchez dans une église? Oh ben, un peu de musique cool, le coffee bar dans un coin, des gâteaux gratuits, des concerts tous les samedis soirs, un gymnase pour s'éclater, voilà. Ah, oh, on va vous faire ça, vous viendrez. Bah oui, si vous avez tout ça, je viens. Notre église est remplie, Dieu béni. En êtes-vous si sûr? Notre église est remplie, oui. Est-ce que Dieu bénit? Ça, c'est la question. Si les gens ne veulent pas de l'évangile aujourd'hui, prions pour eux, mais ne nous culpabilisons pas à cause d'eux. Allons plus loin, il y a peut-être quelqu'un derrière eux. Au lieu de répondre aux attaques de Satan, Je vais aller plus loin, peut-être que je trouverai quelqu'un qui veut l'évangile aujourd'hui. Il faut rejeter la culpabilité sur les coupables. Et puis, le fruit de son témoignage, c'est des âmes qui sont sauvées. Ah, pas des foules, mais des gens clés. Regardez les gens quand même. En homme craignant Dieu, la maison contiguë à celle de la synagogue. C'est là qu'ils se réunissent. L'église chrétienne se réunit dans la maison à côté de la synagogue. C'est pour ça qu'il y avait le parler en langue dans l'église de Corinthe, quand Dieu a dit n'empêchez pas de parler en langue, parce qu'il y avait des juifs qui venaient à l'assemblée chrétienne de la synagogue. Et le don des langues était un signe de jugement sur les juifs parce qu'ils avaient rejeté le Messie. En Corinthiens 14, 21 et 22. C'est par les langues d'étrangers que je parlerai à ce peuple, le peuple d'Israël. Il ne m'écoutera même pas, ainsi dit le Seigneur. Ainsi les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants, en signe de jugement. Et nous sommes à 15 ans dans la destruction de Jérusalem. Ce terrible jugement que Dieu avait promis. Quand Jésus était là, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants. Il ne restera pas de cette maison pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il parlait de la destruction de l'an 70. Et le don des langues a été donné au peuple juif comme signe de son prochain jugement. Et là, l'église se réunit dans la maison à côté de la synagogue. Les gens, les juifs, pouvaient entendre l'évangile. Chez un ancien chef de synagogue. Et puis Crispus et toute sa famille, des gens clés. Dieu lui a donné des gens clés. Et puis, Dieu lui fait des promesses, versets 9 et 10. Dieu n'a pas fait cette promesse chaque fois à Paul. Je pense qu'il aurait voulu. Si on avait la garantie qu'on ne nous attaquerait pas si on va dans une ville, qu'on en sortirait vivant et même en très bonne santé, on irait n'importe où. Mais il est allé dans certaines villes, il a été lapidé, torturé. Toutes sortes d'affaires, il ne savait pas comment il allait s'en sortir. Plusieurs fois, il a failli mourir. Mais là, Dieu connaît sa situation, Dieu connaît son cœur, sa santé, son psychisme. Et Dieu lui dit, « Eh bien, ici, Paul, tu peux y aller. » T'es sûr? J'ai peur. Tu peux y aller. Personne ne te fera rien. Tu ne souffriras pas, parle. Si le Seigneur lui a dit ça, c'est que sans doute, il voyait que son serviteur avait un peu peur d'un peu plus de souffrance. Il était affaibli. Et qui peut le blâmer? Qui ici peut dire, moi, je suis toujours au top. Je me lève le matin, dynamique, consacré à Dieu, je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu d'épreuve, je ne sais même pas ce que c'est une épreuve. Ma vie est une suite de victoires, je vis sur la cime d'une montagne, je survole, je suis sur un nuage porté par Dieu et toutes ses promesses. Alors vous n'êtes peut-être pas un être humain, mais un ange parmi nous. Mais les êtres humains qui aiment le Seigneur connaissent des craintes, des peurs. Et le Seigneur rassure son serviteur. C'est beau, la compassion de Dieu. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Le Seigneur, il n'aurait pas eu tort de dire, « Allez mon gars, lève-toi, tu vas être lapidé aujourd'hui, c'est pas grave, je vais te garder en vie, et puis tu vas fonder une nouvelle église, ça te va? Vas-y, vas-y, allez, pousse-toi !» Non. Il dit non, là, je vais te garantir ta sécurité, alors tu peux y aller. Prêche, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. La promesse de Dieu. Et quand Dieu sait que nous sommes diminués, que nous sommes fragilisés, il en tient compte. Il est plein de miséricorde. Il aime ses serviteurs. Il aime ses enfants, surtout ceux qui le servent. Il est plein de compassion. Et puis, pour finir, la puissance de Dieu est pour le salut. Il n'a pas fait de signes de prodiges et de miracles à Corinthe. Oh, les Corinthiens, ils auraient bien voulu aimer ça. Eux, ils auraient organisé des foires de signes, de prodiges et de miracles. La seule chose qu'ils pouvaient faire un peu de spectaculaire, c'était parler en langue. Alors ils s'en sont donnés à cœur joie, d'autant plus que dans leur culte idolâtre, pour la déesse de la fertilité, ils faisaient des logorées, des espèces de syllabes d'extase qui sortaient, qui jaillissaient. Ça faisait partie de leur culte occulte et immoral. Et Sans doute, certains d'entre eux pensaient que c'était un peu la même chose. Ils reproduisaient ce qu'ils avaient fait en tant que païens et le faisaient passer pour les signes de spiritualité. Dieu a fait exprès de ne pas faire de miracle à Corinthe. Juste la prédication de la parole avec la puissance du Saint-Esprit. Et pour lui, votre foi a été fondée sur la parole de Dieu. Cette parole et cette puissance, nous l'avons aujourd'hui. La même puissance, la même parole et le même esprit. Et au cas où vous seriez découragé ce soir, de dire, je témoigne, je prie, je ne vois pas du tout la quantité de fruits que je devrais voir. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? S'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, et c'est souvent le cas, ne nous cachons pas la face, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, si vous demandez au Seigneur de vous le montrer, il vous le montrera tout de suite, parce qu'il veut vous en purifier. Pas besoin de prier longtemps. Pas besoin même d'inventer des choses. Ah, peut-être au Seigneur, il y a 5 ans, j'ai fait ça. Alors, s'il y a 5 ans, vous avez fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit, il vous le rappellera la mémoire et vous rappellera que ça n'a jamais été confessé, pour qu'on puisse le confesser. Mais ne cherchons pas ce qui ne va pas si le Saint-Esprit ne vous montre rien. Quand il le montre, c'est quelque chose de clair, de détaillé. On sait ce que c'est. Quand Satan nous attaque, c'est jamais clair. C'est, tu vois comment tu es. Hein, tu chantes par devant, mais derrière, moi je trouve que tu n'es pas très obéissant. Et quoi? C'est une espèce de nuage qui tourne comme ça, rien ne va bien, moi je ne suis pas bien, les autres ne sont pas bien, rien ne va bien. C'est une attaque de l'ennemi, c'est pas quelque chose de clair. Quand l'Esprit Saint convainc de péché, c'est clair. Tu as fait ceci, tu as eu cette pensée, tu as eu cette motivation, c'est clair. Confessons nos péchés. Mais quand Satan nous embrouille de son nuage de culpabilité, il faut savoir prendre la victoire et dire non, je refuse d'être culpabilisé par Satan, j'accepte la conviction du Saint-Esprit. Et dès que nous savons que notre cœur est pur devant Dieu, on peut demander, remplis-moi de ton Esprit Saint. Et il le fait immédiatement. Immédiatement. Parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Et il nous connaît et il sait nous parler. Il sait nous consoler, il sait nous fortifier. L'apôtre Paul est sorti de cette église de Corinthe, guéri, fortifié par les soins que le Seigneur lui a donnés. Alors, prenons courage. Satan voudrait nous faire croire que servir Dieu sera un immense sacrifice, quelque chose d'horrible. Mais il ne connaît pas la consolation de l'Esprit Saint. Nous la connaissons. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ces instants et nous te prions que l'exemple de cet apôtre que nous aimons tant, que nous admirons tant, puisse nous encourager à notre tour. Il a juste fait ce pourquoi tu l'as appelé, mais tu étais là pour l'encourager, pour le fortifier, pour lui faire des promesses, pour lui envoyer ses amis, pour lui envoyer des moyens pour vivre. Tu l'as béni, tu l'as restauré en pleine activité. Et puis alors il a rencontré Aquilas et Priscille, des amis très chers et très utiles. Partout il a servi, il les a retrouvés ici et là. Seigneur, quelle bénédiction! Et nous te prions que tu nous aides aussi à voir ta main divine dans ces choses de notre vie. Aide-nous à ne pas chercher les grandes choses, les choses grandes et relevées, mais cherche des choses simples, ton accompagnement, ta promesse, dans l'obéissance, dans la joie, dans le service, dans la confiance. Oui Seigneur, ce sont les composantes d'une relation d'amour avec toi. Permets-nous d'en vivre en Jésus-Christ. Amen.
Amen.